moment pour la Terre avec France Nature Environnement, c'est tout de suite. Bonjour Alex.
Salut, salut.
Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ?
Alors, on va parler un peu de notre projet Alpatouille, en l'occurrence du chien de protection de troupeau. Alors, je vais d'abord faire un petit point un peu pour me présenter à nos internautes. Je m'appelle Alexandre Bonnet, je suis originaire du nord de la France, voilà, du Nord-Pas-de-Calais, je suis né à Seclin. J'habitais toute ma scolarité là-bas, et puis on va dire qu'à la fin de mes études, j'ai décidé un peu de voir d'autres horizons, et donc j'ai voulu partir un peu, explorer un peu la France. J'ai d'abord, après mon BTS, donc j'ai fait un BTS GPN, gestion et protection de la nature, en cadre initial à Arras, au lycée agro-environnemental de Thiolet-Mauflaine. Ensuite, je suis parti, on va dire, j'avais envie d'expérience un peu plus professionnelle. Du coup, je suis parti un peu me former sur le terrain, et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu les offres d'emploi ou autres. Et j'ai d'abord commencé un poste en tant que secouriste, notamment au mois de juillet dernier. Et en août, je suis parti en tant que, j'ai fait de l'éco-volontariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, où j'ai fait ce qu'on appelle de l'éco-volontariat. C'est un, on va dire, c'est une branche de métier où, en fait, je prenais, entre guillemets, le petit train du Mont-Blanc, qui est au départ de Saint-Gervais. Et en fait, je montais jusqu'au Mont Lachat, qui est le sommet, enfin, c'est un peu, on va dire, le pied du Mont Blanc, à environ à 2000-2100 mètres. Il y a énormément de touristes là-bas, et moi, mon but, c'était vraiment de sensibiliser un peu les gens autour de l'écologie, on va dire, du milieu montagnard dans lequel on se trouvait. Donc, on avait des silhouettes d'oiseaux, comme des gypètes barbus, des aigles royaux, etc. Donc, les gens devaient un peu essayer de. En taille réelle, voilà. Que le gypète barbu, c'est le plus grand rapace d'Europe. Il peut faire jusqu'à 3 mètres d'envergure, ce qui est quand même énorme. C'est un animal qui se nourrit quasiment que d'os. Puis ce n'est même, c'est l'un des seuls animaux qui se nourrit d'os, exclusivement. En fait, il les ingurgite. Et quand ils sont trop gros, parfois ils vont en altitude, ils les cassent pour qu'ils soient un peu plus petits. Voilà. Donc on avait ça. On parlait aussi un peu des ongulés. Les ongulés, c'est un peu tous les animaux du type, on va dire, chamois, cerf et autres. Voilà. Et donc on avait un peu tous ces petits moyens d'animation. C'était majoritairement un public assez touristique, bien évidemment. Les gens prennent, on va dire, le train, ils viennent en haut, ils sont intéressés. Et en bas, on va dire qu'au niveau des gares, ils font toute la communication pour dire « Ah, regardez, il y a deux éco-volontaires là-haut, de telle heure à telle heure, pour aller les voir, etc. » Ils font du bon boulot, tout ça. Donc voilà. Et puis ça permet aussi de rendre un très bon moyen à la commune de Saint-Gervais. Parce que du coup, on les aide là-dedans. C'est aussi un moyen de promotion aussi, de faire un peu un aspect un peu plus touristique. On va dire plus écologique, on va dire. Voilà. Parce que les gens parfois ont tendance à aller. L'une des plus grandes problématiques qu'on a, c'est que les touristes parfois vont sur ces régions-là pour un peu observer la beauté de la nature, mais n'ont pas forcément ce côté un peu plus naturaliste. Ils s'intéressent un peu moins à ce qu'ils ont autour d'eux. Pourtant, pour moi, je trouve que c'est un primordial, surtout dans ce type de milieu. Et donc, mon déclic que j'ai eu vis-à-vis du coup de mon service civique, là, un service civique que j'ai commencé depuis mi-septembre et que je vais terminer mi-mai. Ça a été, c'était encore dans cette période-là, en Haute-Savoie, c'est pour ça que je parle de ça. J'étais parti, puisque je suis un grand sportif, je suis un trailer aussi à la base, course à pied, enfin triathlon, et puis après trailer. Et un jour, j'ai fait une rencontre avec des patous. Voilà. Et j'ai été très surpris, très intimidé aussi. Ils étaient trois bergers des Pyrénées, donc trois gros chiens. Et je ne savais pas trop quoi faire. Donc, on va dire, instinctivement parlant, mon corps m'aurait dit de fuir, de courir, sauf que c'est absolument pas le cas. Et j'ai décidé j'ai fait un peu le comportement que ce qu'on explique avec Alpatou, que je vais revenir après, sans réellement le savoir. On va dire que j'ai essayé de statistiques, etc. Et de parler un peu aux chiens, mais ça j'en ai un peu plus après. Et depuis ce jour-là, en fait, on va dire que j'essaie de trouver, on va dire, dans mes offres d'emploi, des offres qui correspondent un peu plus à ce que je recherche, c'est-à-dire un peu de la médiation, de l'association environnement. Et c'est là que je suis tombé sur l'offre de FNE pour devenir médiateur pastoral, notamment avec le projet Alpatou. Et c'est là que j'ai postulé et que j'ai été pris. Voilà.
Oui, parce que les patous, ça fait encore peur aux randonneurs, notamment.
Beaucoup.
Il faut vraiment savoir comment se comporter.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je pense l'un des plus, on va dire, moi en tant que service civique sur le terrain, on voit beaucoup de gens qui parfois ont tendance à avoir peur. Simplement, ils ont des très mauvaises expériences. Il suffit que quelqu'un se fasse pas agresser, mais je veux dire qu'il se fasse énormément intimider, parce que c'est surtout aussi ce que fait le chien. Le chien, il a peur en fait lui-même, donc en aboyant, en fait, c'est une façon de dissuader, on va dire, les prédateurs entre guillemets. Le chien ne fait pas forcément la distinction entre humain et chien, on va dire, sauf le berger en l'occurrence. On va dire que dans les mœurs, un peu comme le loup, le patou, ces dernières années, il a un peu mauvaise réputation, quoi. Si on n'a pas eu réellement de mauvaises expériences, la communication peut passer, mais parfois les gens, je sais que j'ai rencontré certaines personnes dont la communication était plus compliquée parce que les gens avaient eu une mauvaise expérience, quoi, avec le patou. Donc c'est pas facile, quoi. Voilà.
Parce que c'est important aussi que le patou soit bien dressé pour pas qu'il soit agressif avec l'homme, enfin avec l'être humain, quoi.
Ouais. En fait, il y a tout un dispositif qui est mis en place par l'État pour pouvoir en fait permettre aux bergers de pouvoir avoir ses chiens. Et en fait, il y a des éleveurs qui ont suivi des formations particulières pour pouvoir en fait élever ces chiens, parce que c'est un peu, on va dire qu'ils sont d'abord, ils sont vraiment mis avec le troupeau dès le plus jeune âge. Enfin, dès qu'ils sont sevrés entre guillemets, ils sont avec les moutons ou autres. Donc c'est un peu comme si ils étaient avec leur famille. Enfin, leur famille, c'est le troupeau en fait. Voilà. C'est un peu ça aussi. Donc c'est toute une partie que nous on explique aussi dans la formation de Patou, que je rendrai un peu plus tard. Donc voilà. Je vais faire un petit rappel aussi au niveau du loup, parce qu'on parle aussi un peu du loup, mais on n'a pas forcément expliqué un peu aussi son arrivée en France, pour les gens qui ne connaîtraient pas un peu les différentes dates et autres. Donc il faut savoir que le loup, il était traqué longtemps, depuis à peu près les années 1930, pas de Moyen-Âge. Il est arrivé en France, on va dire, aux alentours des années 1987. Voilà. Il est arrivé par la frontière franco-italienne. Et c'est seulement en 1992 qu'il a été définitivement implanté. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il a commencé, on va dire, à se reprendre un peu en France. Notamment, il est arrivé par le parc naturel régional du Mercantour, notamment. C'est le premier parc par lequel il était arrivé. En 1979, il est passé sous la Convention de Berne. C'est une convention qui a été mise en place pour la faune sauvage, qui permet en fait de donner un statut en fait à l'espèce en elle-même et de pouvoir la protéger. Une meute, c'est environ 5 à 8 loups, à peu près. Et c'est un territoire d'environ 200 km². Il faut savoir aussi que le but, en fait, de la répartition qu'ils font, on va dire, en France, c'est surtout aussi créer de nouvelles meutes. Environ à l'âge de 2 ans, les loups, en fait, ils vont commencer à partir un peu de la meute pour pouvoir aller coloniser, en fait, d'autres territoires. Et maintenant, le loup, en France, il est quasiment partout. On peut le retrouver dans des régions qui ne sont absolument pas montagnardes. Et c'est aussi une façon d'aller trouver une nouvelle meute et de fonder une famille autre part, quoi. Voilà. On peut aussi avoir des loups plus solitaires, mais ça, c'est dans le rapport un peu plus social. Ça, j'y reviendrai aussi un peu plus après avec le livre, notamment, que je vais présenter. Où là, parfois, on peut avoir aussi des exceptions, où on peut avoir un loup qui peut être carrément éjecté de la meute et qui peut vivre toute sa vie solitaire, voilà, sans jamais fonder une famille. Il faut savoir qu'à la base, pour la petite anecdote, des experts du loup avaient donné les prévisions de la répartition du loup en France. Celui-ci ne devait pas se disperser rapidement et se cantonner au massif des Alpes, notamment, mais il était bloqué par le Rhône, et ses prévisions se sont vite retrouvées fausses, puisque les loups en dispersion ont suivi les autoroutes notamment, et que ce soit les ponts et autoroutes, même les villes, parfois on pouvait en apercevoir tard la nuit. Et ils ont profité en fait de l'abondance de nourriture, que ce soit par exemple dans les poubelles ou autres. Il y a aussi d'autres animaux qui se nourrissent de ça, notamment les sangliers et tout ça, qui se nourrissent de toutes ces choses. Notamment, je pense qu'on l'a vu durant la période Covid, avec le confinement, on a eu beaucoup d'animaux sauvages qui se retrouvaient dans nos villes, des villes comme Paris et autres, etc., où parfois on pouvait apercevoir des cerfs, des biches, des chevreuils et autres, ce qui est un peu lunaire pour ce type de région. Donc ça a été totalement faussé, cette a priori, on va dire, sous les loups. Au niveau de son régime alimentaire, le loup, c'est un animal qui se nourrit majoritairement de populations d'ongulés. Voilà. On va dire que vis-à-vis du chien de protection de troupeau, en fait, il a un rapport assez particulier, parce que on va dire que les deux, ils ont un peu les mêmes codes hiérarchique, ou du moins le même rapport à la famille. On va dire que les loups, eux, ils ont un peu leur meute, leur famille, et les chiens, eux, ils ont un peu leur meute, donc c'est-à-dire leur famille aussi. Donc, et tous les deux, en fait, ont envie de protéger en fait leur famille, donc ils ont un peu des codes à respecter, on va dire, avec les deux. Donc au final, ils sont assez similaires tous les deux sur ce point-là. C'est un animal qui est assez opportuniste, le loup, tout comme le lynx, mais j'y reviendrai ça aussi un peu après. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont essayer le moins possible de consommer de l'énergie, c'est-à-dire des calories, parce que c'est des animaux qui ont besoin de faire des réserves parfois, ou qui peuvent parfois s'empêcher, ou qui n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir manger pendant plusieurs semaines, donc qui doivent, ça peut arriver, quasiment 2-3 semaines, ça peut arriver un chien, voire même, enfin même plus. Donc ils ont besoin en fait de manger, et donc s'ils doivent chasser, ils doivent un maximum, le moins faire d'efforts, on va dire, pour pouvoir chasser. Donc c'est pour ça que le loup, en l'occurrence, va s'attaquer plus à des populations d'ovins, de caprins et bétail aussi. C'est ce qui pose aussi le plus de problèmes. Et parfois, il a tendance à, malheureusement, à tuer plus que ce qu'il ne mange, malheureusement. Voilà, ça c'est, on va dire, dans l'écologie de l'espèce aussi, et de son comportement. Et maintenant, aujourd'hui, le rôle de Alpatou, du coup, le projet qu'on fait actuellement, c'est un peu de renouer ce lien entre, on va dire, le loup, le chien et l'humain, quoi, simplement. Voilà. Tu avais une question à me poser, Léo ?
La question que je me posais, c'est que c'est vrai qu'on fait pas tout de suite le rapprochement entre un loup et un lynx.
Ouais.
Et encore moins, je pense, entre un loup et un chien. Ouais. Parce que souvent, quand on pense à des chiens, on peut penser à des petits animaux assez doux, qui ont fait des câlins ou autres. Mais c'est vrai que les loups, et avec les chiens et les lynx, ont plus de ressemblance qu'on peut le penser. Donc c'est vrai que c'est assez...
Ouais. Alors,
c'est assez surprenant d'en apprendre qu'ils ressemblent plus que ce qu'on pense.
Ouais. Alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément trop parlé du lynx, je l'ai cité, mais je n'ai pas trop parlé. Pourquoi je fais un lien avec le lynx ? C'est parce qu'en fait, déjà j'ai fait un stage là-dedans, et j'ai un petit rêve aussi personnel, ça serait de pouvoir essayer de voir un lynx de mes propres yeux. Son état naturel, voilà. C'est un animal qui me fascine parce qu'il est encore plus discret que le loup. Lui, il a une façon encore plus discrète de se cacher. Il fait aussi des caches de nourriture, notamment. Donc moi, j'invite aussi les gens à regarder s'ils sont intéressés. C'est il y a pas très longtemps, il y a le Grand JD, une personnalité qui fait des documentaires. Il fait de l'urbex, etc. Et il s'intéresse pas mal à faire des documentaires animaliers. Et il est parti avec un naturaliste dont je n'ai plus forcément le nom, je ne me souviens plus. Il est parti au nord du Canada, dans un parc, et il est parti pendant quasiment, je crois, plus d'un an et demi, deux ans, à la recherche, en fait, de lynx de là-bas. Parce qu'il y a trois espèces de lynx, si je ne dis pas de bêtises. On a le lynx boréal, qui est le lynx qui est présent en France, et on a deux autres, dont une qui est présente, on va dire, pas plus États-Unis, Canada, qui est un peu plus touffu, avec beaucoup plus grosses pattes. Parce que là-bas, on peut avoir énormément de neige. Donc l'animal, il est un peu comme des raquettes au niveau des pattes. Et en fait, il part à la recherche de cet animal-ci, parce que c'est un animal qui est hyper dur à voir. Il le montre en fait dans son documentaire. C'est vraiment pour montrer un peu toute son écologie et montrer aussi la difficulté que c'est d'avoir juste un extrait de quoi, 1 minute 30. Donc c'est vraiment des recherches, des heures et des heures à passer dans la forêt, enneigée, sauvage, etc. Donc c'est un très beau documentaire. Ouais.
Les lynx se trouvent dans les montagnes ou c'est plus du coup dans les vraiment forêts où le peut se trouver dans les lynx, dans des collines, dans des monts, etc.
Alors le lynx, pour l'aspect aussi un peu historique, à la base il y a eu des réintroductions qui ont été effectuées, notamment dans les Vosges, là où j'ai pu commencer, un peu mon attrait pour l'environnement. Mais malheureusement ça a échoué. Donc en fait le lynx est revenu de lui-même. Il est d'abord parti des forêts allemandes et il est commencé à avoir un peu comme le loup à coloniser un peu les différents massifs. Mais là où il est le plus présent, on va dire, c'est le Jura notamment. On a comme une grosse partie, on en a un peu dans les Vosges, après on va dire dans les Alpes, Haute-Savoie, il fallait de Savoie, il y en a un peu moins quand même, mais il y a quand même une petite population. Mais la majorité des lynx qui sont présents notamment en France, c'est vraiment, on va dire, le Jura, les Vosges, voilà. C'est un animal qui est, on va dire, beaucoup plus solitaire. Il n'y a pas ce système de meute par rapport au loup. Lui, il est vraiment très solitaire, c'est-à-dire qu'à l'âge de 2-3 ans, ils vont commencer à partir du nid familial, de la mère, et ils vont commencer à les coloniser. Un lynx, c'est un territoire de 500 km². C'est quasiment deux fois plus qu'un loup. Et ça peut parcourir des kilomètres et des kilomètres. C'est pour ça qu'aussi, on va plus le voir en dehors. Enfin, on peut parfois l'observer beaucoup sur nos communes, nos routes, etc. Parce que c'est des animaux qui vont transiter entre différents massifs. Malheureusement, avec la fragmentation qu'on a, notamment liée avec les autoroutes, les villes, etc. ou autres, ben, on a beaucoup de collisions routières. Et c'est un des gros facteurs limitants pour que l'espèce perdure. C'est un des plus grands problèmes qu'on a. C'est la collision routière. Je sais plus trop quel chiffre aujourd'hui noter ça d'ailleurs, du nombre de lynx qui sont tués chaque année et d'animaux de manière générale qui sont tués chaque année à cause des collisions routières. Mais le lynx, je sais qu'on a beaucoup de problèmes avec ça, notamment. Globalement, si pour répondre à ta question, on le retrouvera pas vraiment en trop d'altitude, du moins c'est assez rare. On le retrouvera vraiment au niveau des forêts, on va dire à quoi, 1000-1500 max, peut-être, voire 2000 peut-être. Mais jamais très très haut, quoi. On n'est vraiment pas sur des 3000, 4000, ça sert à rien. Il y a la majorité de son régime alimentaire, pareil, des ongulés ou autres. Lui, il va plus s'attaquer à des plus petits ongulés, comme des bébés chamois, des cabris, tout ça ou autre. Ou le grand tétra, notamment aussi. Je prends le cas avec les Vosges. Le grand tétra, qui est une espèce qui, pour ma part, dans ma région, les Vosges, c'est quasiment éteinte, si c'était même éteinte carrément. Il y a eu des réintroductions qui ont été faites par le parc régional des Bandes des Vosges. C'est un organisme avec qui j'ai travaillé en tant que stagiaire. Et il y a eu des réintroductions qui ont été faites avec l'espèce, mais qui ont malheureusement échoué en partie à cause de la
fragmentation des routes
Non, juste pour le moment de la prédation. Et puis aussi, c'était un dispositif qui était mis en place, on va dire. Il y avait des financements de l'État et en fait le parc allait chercher des individus dans les pays nordiques, c'est-à-dire en Irlande notamment, parce que là, enfin, là-bas, il est très présent, l'animal, il est même trop présent. Donc il y a beaucoup de gestion cynégétique, notamment la chasse ou autre, donc on mange beaucoup de l'espèce là-bas. Donc il est prené, il est ramené ici, en fait, il est relâché. Il y a des prospections qui ont été faites pour voir un peu dans quel milieu il est plus propice, mais ça n'a pas abouti, malheureusement. Voilà.
Est-ce que le lynx est classé en espèce en voie d'extinction ou pas encore ?
Non, l'espèce n'est pas classée en voie d'extinction, mais il est classé en tant qu'espèce strictement protégée. Voilà. Donc on a interdiction de le tirer, sinon on peut recevoir une amende assez salée. Et puis généralement, ça se fait assez vite quand un lynx il est tué, parce que généralement, la majorité des lynx qu'on a en France, ils sont tous... on va dire pas bagués, mais ils ont tous un collier autour du cou qui permet de les tracer. Alors il y en a, au bout de quelques années, ils les perdent malheureusement, mais on sait à peu près grâce aux nombreuses caméras pièges qu'on a dans tous nos parcs, qu'on suit un peu leurs itinéraires, comment ils se déplacent, etc. Donc on arrive un peu à savoir. Et maintenant, on va dire, les experts dans le milieu arrivent à savoir quel individu c'est, grâce en partie avec les motifs qu'ils ont au niveau du pelage. Et c'est ça qui est très intéressant. Et puis moi, dans mon cas, au niveau du parc, j'intervenais notamment au niveau de l'animation. Donc, je parlais un peu de son écologie. Je disais aussi un peu quelques anecdotes, notamment avec un peu le loup, parce qu'au final, le loup et le lynx sont assez rapprochés, c'est-à-dire qu'ils ont un peu cette facette de méchants prédateurs qui s'attaquent au bétail, etc. Sauf qu'en fait, le lynx l'est beaucoup moins. Enfin, du moins, les attaques de lynx sur le bétail, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. Généralement, la majorité des attaques, c'est des lynx qui sont malades, donc qui sont très affaiblis, qui ont besoin de s'attaquer à des proies qui sont très faciles. Ou sinon, ce sont juste des... ça peut être des attaques ou autres, mais globalement, c'est très très rare que le lynx s'attaque du bétail. Il va majoritairement s'attaquer vraiment à des pissenlits ongulés, comme j'ai pu le redire, etc. Voilà un peu pour toutes les petites anecdotes au niveau du lynx, et faire le rapprochement aussi avec le loup. Myself, no baby. Be my obsession, my possession, baby. I got fine selection. This must be your lucky day, baby. I wanna jack it, smack it. You know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it. I give you everything you want. Calling out your name, the light champagne. When the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. I watch you burn this place. The ashes move that ass and raise a glass to help you love to misbehave, baby. Be my addiction, my prescription, baby. I got a condition. It must be your lucky day.
Voilà, de retour dans France Nature Environnement, enfin un moment pour la Terre, avec Alex Bonnet. On continue donc, si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral.
Ok, donc je vais un peu parler un peu plus au niveau de la sensibilisation elle-même, notamment au niveau d'Alpatou. Donc Alpatou, c'est un projet qui a été lancé depuis 2021, et ça fait déjà quasiment du coup plus de 5 années que le projet est mis en place. C'est un projet qui vise principalement du coup à sensibiliser en fait les usagers de la montagne aux bons comportements à avoir en présence de chiens et protection de troupeaux. Et en fait, nous, notre but, c'est vraiment de, on va dire, de retrouver et de recréer du lien, en fait, notamment entre le loup, le chien, les bergers aussi, notamment, et l'humain lui-même, pour essayer de le replacer un peu dans l'environnement, on va dire, vis-à-vis du chien et du loup. Pour donner un peu des petits chiffres avec les années antérieures, en 2025, on a eu quasiment entre 2400 à 2500 personnes sensibilisées, à peu près. Et on a à peu près une quarantaine de bénévoles qui sont actifs. Voilà. J'ai plus trop les chiffres sous les yeux, mais je sais que la majorité de la région qu'on prospecte le plus, c'est, on va dire, au niveau des départements et des bénévoles, c'est majoritairement des bénévoles qui viennent du 04 ou du 05. Voilà. Je sais que pour les deux dates qu'on a actuellement avec Alpatou, c'est principalement des dates, c'est principalement des gens qui viennent du 04 et du 05. On a peu de personnes qui viennent de d'autres départements, comme du Vaucluse, du 13 ou autre.
Donc on rappelle, c'est une formation
Oui, c'est ça. Alors, c'est une formation. Alors,
qui est ouverte à tous.
Oui, c'est ça. C'est une formation qui est ouverte à tous. C'est un peu aussi le rôle d'Alpatou. C'est essayer de permettre aux gens qui n'ont pas forcément un attrait environnemental, qui viennent d'un milieu qui n'a rien à voir. Ça peut être des ingénieurs, ça peut être des banquiers, ou que ce soit, mais des gens qui ont peut-être un attrait pour l'environnement sur le plan un peu plus loisir, de pouvoir aussi contribuer un peu à la préparation de l'environnement et la médiation aussi sur le terrain. Et si ce sont, parce que généralement les gens d'ici de la région, moi je l'ai vu un peu depuis, ça fait 7-8 mois que je suis ici, quasiment un peu moins, les gens ont tous un peu un attrait que la montagne assez particulier, que moi dans le nord de la France on n'a pas forcément, parce que l'environnement n'est absolument pas le même, mais ils sont, je pense dans la région on est un peu tous concernés par ça, on a tous déjà fait des randonnées dans la montagne, je pense qu'on a tous déjà au moins rencontré une fois, du moins de loin, pas forcément rencontré directement sur place, hein, pas tout, mais je pense qu'on a été tous directement un peu confrontés à ça. Et vraiment le rôle d'Alpatou, c'est de permettre à ces gens-là de pouvoir participer. Donc en fait on a une formation de 2 jours, dans lequel en fait on a une première journée qui est vraiment dédiée, on va dire, à l'intervention d'organismes comme la DDT, le CERPAM ou autres. Ce sont des organismes notamment au niveau de la médiation pastorale, pardon, qui interviennent notamment pour redonner des chiffres au niveau du loup, redonner les nouveaux chiffres, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements. Parler aussi au niveau du chien, on reparlait aussi un peu notamment aussi de comment sont immiscés les chiens dans les troupeaux, etc. Ça, c'est pareil. Les bénévoles vont aussi pouvoir se placer en fonction de ça. En fait, leur but à eux, c'est vraiment, sur leur temps libre, de pouvoir faire des petites randonnées alpatou de leur côté et de pouvoir un maximum, en fait, contribuer au projet. Parce que l'une des facettes qu'on a aussi sur alpatou, c'est un peu aussi le recueil de données. C'est-à-dire qu'à chaque intervention qu'on fait sur le terrain, moi, je sais que j'en ai fait une avec une de mes collègues de bureau, Maëlys, samedi dernier. On est parti en forêt de cèdre à Beaunieu. Voilà. Et c'est vraiment une très belle sortie. Il y a vraiment un très beau temps, etc. C'était vraiment cool. On a eu 54 personnes, je ne dis pas de bêtises. C'est quand même beaucoup pour cette période-ci. Bon, en même temps, c'est l'arrêt du printemps, les beaux jours, etc. Donc, on a eu beaucoup de familles, beaucoup de randonneurs. On a eu quand même quelques personnes qui n'étaient pas forcément de la région. Mais du coup, il y avait un bénévole qui était aussi présent, qui s'appelait Bernard. Bernard Valla. Voilà. Big up à lui s'il nous écoute. Mais non, c'était vraiment sympa. Et puis, je pense que on se rend compte au fur et à mesure des années que le projet prend de plus en plus d'ampleur. Quand je dis ça surtout, c'est qu'on a beaucoup d'organismes qui nous appellent. Moi, je sais que là, avec depuis quoi 3-4 mois, j'ai différents organismes qui ont pu faire appel à moi par mail, notamment, je pense, Top Animal, qui est un magasin d'animalerie à Digne, qui m'a appelé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu des mauvaises aventures avec les chiens. Du coup, ils venaient en fait voir la caissière ou le caissier ou même la personne dans le magasin pour demander « Mais qu'est-ce que je vais faire avec le chien, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» Et eux n'avaient pas forcément le discours approprié pour parler de ça. Du coup, ils ont fait appel à nous, parce qu'ils ont entendu parler aussi de chez FNE du projet Alpatou. Donc, on a fait appel, et donc là, on est en train de voir pour une date d'ici fin avril pour pouvoir intervenir chez eux. Et aussi, sur le plan un peu plus sportif, on a aussi, moi je sais que j'ai les foulées de l'Esteron, qui est un trail en fait qui était mis en place je crois le 7 juin, qui a différents types de formats. Et je sais qu'ils ont fait appel à moi pour pouvoir un peu parler de Alpatou, tenir un stand même si possible. Parce que nous, Alpatou, on tient aussi des stands et des événements, mais j'y reviendrai plus après. Et en fait, ils ont fait appel à moi parce qu'ils voulaient sensibiliser en fait au comportement le départ des randonnées. Donc, outre l'aspect de parler de ça, c'est surtout pour montrer que chez Alpatou, on a de plus en plus une branche. C'est pas que de la médiation sur le terrain, c'est aussi beaucoup d'événements, de stands, et c'est ce que on va dire l'axe d'amélioration sur lequel on s'appuie un peu plus pour Alpatou pour 2026. C'est vraiment continuer à faire des stands et des événements parce que ça aussi on touche un plus large public, outre forcément que des habitués de la montagne ou autres, parfois des gens qui n'ont absolument pas d'attrait pour la montagne, qui n'ont rien à voir là-dedans, mais qui entendent parler du projet, etc. Et donc c'est bien, c'est cool, quoi. Voilà.
Ce sont des formations qui sont gratuites pour les personnes,
oui,
qui font appel.
Oui, ce sont des formations qui sont gratuites.
Alors, qui sont payées par Provence.
Alors, sont pas payées, sont gratuites, mais néanmoins en fait, on demande d'avoir une certaine adhésion à une association environnementale, pas forcément FNE, mais ça peut être ce que je disais généralement, c'est de se rapprocher des différentes FNE en fonction des départements. Moi, par exemple, je prends le cas des futurs bénévoles Alpatou qui viennent du 05. Je prenais le cas de la SAPN, donc la Société Alpine de Protection de la Nature, qui sont basées à Gap. Donc, je leur ai donné le bulletin d'adhésion. Mais ils ne sont pas forcément obligés d'être adhérents à FNE. Il faut qu'ils, voilà. C'est une façon un peu de contribuer. C'est une formation qui est gratuite, qui est mise bout à bout de A à Z, qui est organisée par moi-même et un peu aussi Justine Poncé, enfin qui est coordonnée aussi par Justine Poncé. Et on a aussi d'autres organismes aussi qui interviendront au niveau de la formation. Et donc, on a vraiment la première journée qui est dédiée plus à, on va dire, l'aspect un peu plus pratique, théorique, pardon. Avec, comme j'avais dit, l'intervention de cet organisme, les bénévoles qui vont pouvoir se positionner. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une carte QGIS énorme de tout le département, enfin des différents départements, de la région.
Une carte QGIS ?
QGIS, alors QGIS, c'est un logiciel de cartographie qui permet, qui est quasiment utilisé dans le milieu de l'environnement. Je dirais que c'est même indispensable maintenant pour postuler dans à différents postes. Et c'est un très bon logiciel qui est, pour ma part, pas hyper simple à prendre en main. Clairement, ça demande énormément de temps et d'investissement pour apprendre à gérer un peu le logiciel. Mais quand on sait mieux l'utiliser, on peut faire des très belles cartes et ça permet vraiment en fait de mettre des points clés. Moi, je sais que pour ma part, j'utilise QGIS pour soit faire des bilans pour des cartes et autres, soit aussi pour indiquer les différents points de sensibilisation. Par exemple, à chaque sensibilisation qu'on fait sur le terrain, c'est un point en plus que je mets sur la carte, donc le département. C'est dommage que je ne peux pas montrer à la radio, etc., mais sinon je l'aurais fait clairement. Et ça permet en fait de voir quelle est l'avancée d'Alpatou et quelles sont les zones qu'on a prospectées et moins prospectées. Mais ça permet aussi à l'avenir d'orienter quelles sont les zones où il y a le plus de monde aussi, et de permettre de toucher un plus large public et de toucher le plus de zones possibles dans tout le département.
Ouais. J'avais une dernière question pour revenir sur le côté formation, donc de FNE. Ce sera toi qui seras en charge du coup, enfin sur le côté plutôt stand et événements, pardon. Ce sera toi qui seras en charge donc d'organiser les événements, de préparer les stands.
Ouais. Alors moi en fait au niveau d'Alpatou, ma double casquette, outre la préparation des formations, c'est surtout aussi de mobiliser les bénévoles. On va dire ce que je fais pas mal en ce moment depuis l'arrivée des beaux jours. Les troupeaux, ils arrivent d'ici, je pense, là, début avril, début mai, même aussi. Et là, même actuellement, là, déjà même mi-mars, on a quelques troupeaux qui commencent à arriver sur les pâturages. Et moi, ma double casquette, c'est aussi un peu d'essayer de mobiliser un maximum les bénévoles, en essayant de les relancer un maximum pour qu'ils se mobilisent et d'organiser toutes les semaines au minimum. Là, je sais qu'avant la fin de mon service, je vais faire au minimum une randonnée Alpatou par semaine. Ça dépend, parfois ça peut être le mercredi, le samedi, ça dépend un peu des disponibilités de tout le monde. Donc j'envoie un mail, aussi bien sur mail ou sur Signal. Signal, c'est une petite application qu'on a avec un groupe, avec tous les bénévoles Alpatou. Et en fait, j'envoie ça et ça permet de si jamais il y a des gens qui sont intéressés, qui peuvent venir. Moi, par exemple, la rendez-vous que j'ai faite la semaine dernière avec Maëlys, une collègue de bureau, Bernard m'avait dit qu'il peut être disponible, donc il est venu de lui-même et voilà quoi. Donc c'est sympa. Il y avait aussi des services civiques du Vaucluse qui étaient présents. Donc on a aussi cet aspect de inter-association, on va dire, qui peut être pas de si de participer. Ils n'étaient pas forcément adhérents à Alpatou ou autre, mais ils avaient aussi cette envie de vouloir, comment je peux dire ça, de s'intéresser au projet. Et puis ils avaient aussi comme un certain attrait pour l'environnement. Ils font pas mal d'inventaires naturalistes. Je vais pas dire les noms parce que c'est des noms un peu voilà, mais ils font des études pour voir un peu le comportement animal et voir un peu comment se déplacent les différentes espèces, notamment au niveau des oiseaux principalement, de ce que j'ai pu comprendre, en forêt de Beaulieu, donc là où j'ai pu intervenir avec Alpatou. Et puis on avait une des personnes qui avait déjà fait EcoGuard et qui connaissait aussi un peu la médiation pastorale, donc qui connaissait un peu le projet, il savait un peu aussi les gestes, etc. Donc c'est aussi une façon de rassembler un peu les gens aussi à Alpatou. Voilà.
Combien de bénévoles chez Alpatou ?
Une quarantaine de bénévoles. Voilà. On a une quarantaine de bénévoles. Alors ça dépend parce que bien évidemment des bénévoles ne peuvent. Enfin, je sais que en tant que tout humain, on ne peut pas être non plus un robot et on ne peut pas s'impliquer non plus toute l'année H24 avec Alpatou. On a environ, je pense, sur tous les cas, enfin la quarantaine de personnes, on a peut-être quoi, deux ou trois, je pense, bénévoles. Qui sont adhérents qui sont vraiment pour Alpatou à fond. Sinon après c'est des gens qui le sont un peu moins mais qui restent quand même assez investis. Moi je le vois au niveau des QCM, comme j'ai pu le dire, à chaque intervention en fait on remplit un QCM en fonction de les connaissances de la personne vis-à-vis des chiens. Qu'est-ce qu'ils savent, on évalue un peu tout ça, s'ils posent des chiens, d'où ils viennent aussi, c'est intéressant d'avoir. Comme je disais, on a des personnes qui viennent absolument pas de la région. Et la majorité de nos publics, du moins avec ceux qu'on rencontre le plus en période estivale, c'est les vacanciers. Voilà. On a des gens qui peuvent venir parfois même d'autres pays, hein, qui ne parlent absolument pas français. Donc c'est ça aussi qui est sympa avec Alpatou. C'est aussi de savoir parler anglais. C'est, je pense, indispensable. Mais je pense que oui, non, les bénévoles, on a, pour les noms, on a Bernard, Gérard, Cathy, notamment, qui sont un peu les trois personnes qui sont les plus investies au niveau d'Alpatou, du moins les noms que je revois le plus, quoi, quasiment. Mais j'essaie un maximum de mobiliser tout ça et d'essayer d'organiser des apéros ou autre, tout ça, pour être convié à un maximum de bénévoles. Et ce que je vais faire à l'avenir aussi pour les formations. Voilà. Donc. Pour un petit rappel au niveau des formations elles-mêmes, parce que du coup, je vais aussi rebondir là-dessus. Donc, chaque année, on a deux dates de formation qui sont faites par Alpatou. On a une première, en fait, qui est à Sisteron. Donc, ça apparaît 17 et 18 avril au complexe Daniel Mafren. Voilà. Donc, les formations, ça sera tenu là-bas. Il y a un apéro qui est prévu le soir même, qui est payé par l'association. Le logement n'est pas pris en compte, mais j'ai déjà envoyé quelques mails à nos futurs bénévoles pour un peu voir quels sont les différents logements qui sont les plus à proximité, on va dire, et les plus simples. Voilà. Parfois, on a des gens qui sont obligés de se loger, comme moi, par exemple, ce sera mon cas, parce que je viens de Digne, donc c'est pas à côté non plus. Et la deuxième journée, on ira voir une exploitation. C'est l'exploitation de Guillaume, qui est à Torambas. Voilà. Donc c'est pas à côté non plus. J'aurais bien voulu voir un peu plus près, mais en fonction des gens que j'ai pu appeler, etc., des bergers, on n'avait pas forcément beaucoup de bergers qui étaient mobilisés, en tout cas pour la date en l'occurrence. Donc ils nous ont gentiment permis de les recevoir. Donc on ira sur place, et puis là c'est pareil, le but ce sera vraiment de s'immiscer un maximum avec le troupeau, pour montrer un peu l'exploitation, les chiens, etc.
Donc l'exploitation c'est le sol avec donc les troupeaux et
ouais, les troupeaux, voilà, c'est ça. Le chien. Ouais. Quand je dis exploitation, c'est pas forcément exploitation agricole, c'est aussi les troupeaux et les chiens, quoi, voilà. Et de montrer un peu, on va aussi, je pense, ce sera le cas, on va créer des petits jeux d'interaction en fait avec différents groupes pour pouvoir entre guillemets initier un maximum les gens et leur donner un peu la casquette de vous êtes médiateur et vous devez aller sur le terrain, qu'est-ce que vous voulez dire à votre public, voilà. Que ça après ils sont briefés, ils sont speechés, etc. dessus, en fonction des différentes situations, si c'est un trailer, si c'est un vététiste, parce que le discours ne sera pas forcément le même quand on est sur le terrain et qu'on doit intervenir auprès d'un vététiste ou d'un trailer. Moi je sais que même pour ma part en tant que trailer, c'est pas facile parfois de solliciter des gens et de les couper dans leur effort. Ça, c'est soit on est bien vu, soit on est mal vu, clairement. Voilà. Moi, je sais que pour ma part, quand j'ai déjà essayé de faire de la médiation à l'environnement dans le cadre de mes stages avant, c'était très compliqué. Parfois, il y avait des gens où on voyait très clairement, on les embêtait, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était pour essayer d'avoir le discours avec le public, parfois, c'est pas facile. Je pense que pour moi, l'une des plus grandes qualités qui fait un bon médiateur, c'est de pouvoir capter un public qui parfois est pas forcément facile à capter.
Stay.
Voilà, on reprend donc Un moment pour la Terre avec Alex Bonnet. Vous allez conclure cette émission avec un petit ouvrage.
Voilà, un petit ouvrage que j'ai pu... je fais juste un petit point. Je tenais juste à faire un petit big up à Elsa et Maëlys pour la musique que j'ai mise juste avant. Voilà, nos collègues de bureau. Et un petit coucou aussi à Laetitia, nos salariés, Lisa et Justine aussi. Voilà, et Paul, notre service civique. Du coup, pour revenir un peu au niveau d'El Patou, je vais parler aussi un peu d'une œuvre qui, pareil, que j'ai pu lire durant mon service civique, qui s'appelle La Sagesse des Loups. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par Elie H. Radinger. Voilà, c'est une photographe naturaliste, d'originaire des États-Unis. Alors, vous dire le département où j'ai pas appris non plus toute sa biographie. Elle est partie pendant quasiment plus d'une trentaine d'années observer le loup. Donc, c'est quand même énorme, 30 ans à dédier quasiment à l'espèce. Alors, pas fait que ça non plus, mais elle a fait d'autres espèces, mais la principale espèce auquel c'est dédié, c'est le loup. Et en fait, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je me suis dit que j'allais le présenter quand j'ai appris que j'allais passer à la radio, je me suis dit que j'allais le présenter. Je ne vais pas revenir non plus sur tout le livre, mais globalement, ça parle principalement aussi de son écologie dans un premier temps. Et il a un lien qui est assez sympa vis-à-vis du loup, et il reprend aussi un peu l'impact avec les chiens de protection de troupeau, qui est assez cool. Je vais lire, si ça vous dit, après couverture. « Et si l'homme pouvait apprendre bien plus sur lui-même en observant des loups ? Aimer sa famille, prendre soin de ceux qui nous sont confiés, ne jamais abandonner et ne jamais cesser de jouer. Voici quelques-unes des règles d'or des loups. Les animaux s'occupent de leurs aînés et des plus faibles, élèvent leurs petits avec amour, pensent, rêvent, font des projets, communiquent intelligemment entre eux et ont plus de similitudes avec nous que tout autre être vivant. De ce livre captivant, fruit de longues années d'observation, Elie H. Radinger nous révèle des faits étonnants et jusqu'ici méconnus sur la vie des loups. Laissez-vous inspirer par ces récits fascinants, riches d'enseignements et bien des égards sur le sens de la famille, l'art de la patience, la notion de réussite, la confiance, les qualités de leadership ou encore l'adaptation à l'échec ou à la mort. Que ce soit pour surmonter cette situation difficile ou pour relever des défis, et si l'on s'en remettait à la sagesse des loups, et si l'on s'affranchissait enfin du mythe du méchant loup, si profondément ancré dans nos esprits, pour partir à la rencontre de cette espèce souvent mal comprise, malheureusement. Donc, moi, ce que je voulais un peu communiquer vis-à-vis du livre que j'ai pu lire, qui est assez cool, c'est surtout ce rapport assez psychologique à l'espèce en elle-même, et ce rapport un peu hiérarchique, un peu comme le chien, comme j'avais pu le redire auparavant. Le patou et le loup sont un peu rapprochés, les deux. D'un côté, on a le loup qui lui protège sa meute, qui ont vraiment cette hiérarchique avec l'alpha, l'oméga, le rapport avec la mère, les petits, etc. Où ils ont vraiment, on va dire, le loup, c'est un animal qui est très complexe de manière, dans sa manière d'approche psychologique, sociale. Et même encore aujourd'hui, il y a des études qui sont encore faites sur l'espèce en elle-même pour vraiment comprendre un peu comment elle marche. Parce qu'on, parfois, on a des choses qu'on ne sait pas trop encore. Donc, il y a encore beaucoup d'observations qui sont faites sur l'espèce, parce que c'est très compliqué de comprendre un peu comment elle marche, parce qu'elle a vraiment une notion de la famille qui est assez particulière. C'est l'un des animaux les plus complexes d'ailleurs là-dessus, avec d'autres animaux notamment, mais le loup est assez intéressant. Et lui, il faisait surtout le rapprochement vis-à-vis du chien, dans le sens où les deux se ressemblent, et on sent que... on sent qu'en fait, l'autrice, quand elle a écrit le livre, elle voulait vraiment montrer que lorsqu'on s'intéresse à une espèce, je parle vraiment de toutes les espèces qu'on a sur Terre, peu importe laquelle, lorsqu'on ne connaît pas l'espèce, c'est là où en fait on a la peur qui s'installe. Je prends un cas concret, je prends une araignée, un truc vraiment tout bête, voilà. Si vous n'avez pas des araignées, pour moi je pense que c'est en partie, il y a des phobiques, mais les phobies ça se traite, voilà, il faut le savoir. Et... Si on connaît pas l'écologie de l'espèce, si on connaît pas vraiment comment marche l'espèce, quel est son comportement, etc., bah c'est là parfois où on peut faire des erreurs, ou du moins on oriente parfois un peu mal notre façon de vouloir gérer l'espèce. Ça aussi, c'est un mot que j'aime pas trop dire, gérer l'espèce, parce qu'en fait le loup c'est un animal sauvage, il était là bien avant nous. Il y a eu des enfin le loup c'est la loup qu'on a actuellement, le Canis lupus qui est le nom scientifique. il était là bien avant nous, il a eu différentes évolutions, mais pour autant, il est toujours là. Il s'est adapté aussi à notre milieu, à l'humain, hein, parce que, et aussi, on va dire, à l'urbanisation. Il s'est adapté à nos villes, comme j'ai pu le redire. Et je pense, vis-à-vis du chien, en fait, les deux ont peur, en fait, simplement, l'un de l'autre. Le chien, lui, en fait, il va aboyer pour dissuader, parce que même lui, quand il nous aboie dessus, parce que lui-même a peur, c'est juste un moyen de dire, écoute, t'es sur mon troupeau, voilà, quoi, touche pas ma famille. Voilà, il est apeuré, c'est son moyen aussi. Parfois, il peut m'attaquer dans des cas vraiment, mais là, vraiment, pour le cas, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. On a eu même quelques incidents hein, ces dernières années, notamment au Morgon. Mais là, encore une fois, c'est encore des cas exceptionnels, j'ai envie de dire. Et le loup, lui, ça va être pareil. Sauf que le loup, bon, vous faire mordre par un loup, bon courage, j'avoue. Je pense qu'il aura plus peur de vous, même en meute. Mais lui, pareil, son but, c'est là, en fait, protéger son troupeau et l'autre veut essayer d'en profiter un maximum pour pouvoir se nourrir, simplement. Voilà.
Et du coup, donc, les loups donc, ont une tendance à avoir peur de l'homme, des humains.
Ah oui, honnêtement, moi, je sais que j'ai pu être avec certains organismes de l'environnement, comme l'OFB. J'ai pu participer à des comptages au niveau du loup. C'est-à-dire que les comptages se font grâce à des indices de présence, comme des crottes, notamment. Des crottes ou des empreintes. Et grâce à ça, en fait, on arrive à prélever en fait un échantillon et on l'analyse, en fait. Et ça permet en fait de retracer toute l'écologie de l'espèce, quels sont les différents individus, etc. C'est très poussé. Ils ont des bases de données qui permettent de savoir quel est l'individu, etc. Voilà. Et je sais que, pour ma part, la personne avec qui j'étais quand j'ai fait ces prospections-là m'a dit que ça fait quasiment plus de 30 ans qu'il est à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Il a vu deux fois un loup en 30 ans. Et je sais, par exemple, si je prends le cas du... Ouais, vas-y.
J'ai dit que c'était très peu de voir deux fois un loup en 30 ans.
Oui, c'est très peu. Un loup, c'est très très peu. Après, il faut... C'est ce qu'on appelle de l'affût. Donc, l'affût, c'est une technique d'approche qui, en fait, en gros, tu te camoufles. Et t'essaies un maximum, en fait, de... T'observes l'espèce, t'observes les indices de présence, les carcasses et autres. Et puis, tu peux parfois des caméras à piège. Ou parfois, tu te caches, tu mets ce qu'on appelle des feuillages, enfin, tu fais ton propre abri, tu prends ta caméra et tu essaies d'avoir l'espèce. Mais parfois, tu peux attendre parfois 2-3 jours dans le froid, etc.
Tu as eu la chance, t'as pu en voir des loups ?
Non, jamais. Que ce soit le lynx et le loup, jamais. Pourtant, ça m'arrive parfois d'aller dans des endroits assez reculés, quand je pars tout ça en sport route ou même en randonnée parfois seul, même de nuit. Voilà,
même avec caméra ou jumelle non plus.
Jumelle, caméra, j'ai pas encore, mais j'avoue que j'aimerais bien prendre une petite caméra, un truc comme ça, enfin vraiment une longue vue même, je pense, pour déjà observer. Ce serait un truc, je pense, plus tard, une piste d'amélioration qu'on pourrait faire aussi là-dedans, voilà, qui pourrait être assez aussi intéressante. Donc non, soit le lynx et le loup, pour moi, ce sont des espèces qui, enfin, nous voir déjà une fois dans, moi, je l'ai vu avec le documentaire que j'ai pu reparler avec le Grand JD, voir ces espèces-là, de leurs propres yeux, arriver à capturer ces images, etc. ou autre, ça n'a jamais été fait, quoi. Voilà. Surtout dans des milieux aussi naturels. Hors caméra piège. Parce que la caméra piège, on pose, en fait, les caméras sur des lieux de passage, généralement. Les loups sont pas bêtes, hein. Ou même les lynx, hein. Ils empruntent les lieux de passage qu'empruntent aussi les onguiers, les herbivores. Et parfois, ça peut même arriver qu'ils empruntent aussi même les randonnées tout court. Ils sont pas bêtes. Ils vont pas s'embêter, les animaux. Ça peut arriver même quand on fait des randonnées, même l'hiver, qu'on retrouve des empreintes de renards, du loup ou autre, etc. Parce que les animaux, ils empruntent les mêmes chemins que nous, humains, en fait. Le but d'un animal sauvage, c'est de survivre dans un premier temps, bien évidemment, mais de se fatiguer le moins possible. Parce que parfois, ça peut arriver qu'il y ait un manque de nourriture, par exemple X ou Y, période, etc. ou autre. Donc, j'aimerais terminer par une petite phrase que j'ai prise dans le livre, que je trouve assez intéressante. Aimer les loups signifie aussi respecter leur nature sauvage et accepter qu'ils ne sont pas là pour nous plaire, mais vivre leur propre vie. Voilà.
Et on va s'arrêter là, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup Alex Bonnet pour cette super émission.
C'est une très belle expérience voilà. Pour la fréquence Mistral.
Vous reviendrez quand vous voudrez. Bon, là, vous allez terminer bientôt votre service civique. Mais,
si
vous avez envie de nous apprendre des choses sur... Fréquence Mistral, vous serez le bienvenu. Merci Léo aussi d'avoir assisté pour ce premier jour de stage.
Merci beaucoup, c'était ma première émission et j'ai participé, je m'en rappellerai.
Ok, nickel. Et je remercie encore du coup à FNE de m'avoir accepté en tant que service civique. Et merci encore au bureau, voilà. Coucou à eux.
Au revoir.
hands upon a dead man's gun, and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They're giving you a reason to fight. And all the storms you've been chasing, about to rain down tonight. And all the pain you've been facing, about to come into the light. Your hands upon a dead man's gun, and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They're giving you a reason to fight. And all the pain.